France Culture.
Bonjour le Book Club, je me suis rendue au théâtre de l'Odéon pour voir L'Amante anglaise. Avant de revoir cette pièce au théâtre, j'avais seulement des souvenirs assez lointains de ce texte, et à l'époque j'avais vraiment eu l'impression que le langage dissimulait plus qu'il ne révélait.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
L'Amante anglaise, aujourd'hui dans votre book club, d'abord roman, puis pièce de théâtre de Marguerite Duras, publiée en 1967 et 1968. L'autrice s'y inspire d'un fait divers, marquant, survenu en 1949. Dans son texte, ça devient une femme qui assassine la cousine sourde et muette avec qui elle partage le domicile conjugal. Le corps est découpé en morceaux, jeté successivement dans des trains de marchandises. La tête et le mobile demeurant introuvables. Dominique Raymond interprète avec maestria la meurtrière sur scène. Joël Pagès Pindon est une chercheuse spécialiste de Duras. L'une et l'autre sont nos invités pour parler de ce texte fascinant. Comme chaque semaine, nous retrouverons ensuite Fanny Taillandier. En résidence en ce moment au Book Club, elle sort pour nous des livres de sa bibliothèque en fonction de l'actu. Et aujourd'hui, tournée des popotes, Nathalie Quintane et Marine Le Pen. Super programme. En fin d'émission, on joue avec vous à chercher trouver de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Cette fois, nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Dominique Raymond.
Bonjour.
Vous incarnez Claire Lanne, l'un des trois personnages de L'Amante anglaise dans la mise en scène d'Émilie Chariot, en ce moment au Théâtre de l'Odéon à Paris, aux côtés de Nicolas Bouchaud et Laurent Poitrenaud. Merci beaucoup d'être avec nous un jour de relâche.
Merci à vous d'avoir invité.
Texte. Et bonjour Joël Pagès Pindon. Vous êtes une grande spécialiste de l'œuvre de Marguerite Duras. Merci infiniment d'être avec nous aussi aujourd'hui pour évoquer ce texte-là. On a toutes les deux, vous l'avez dans la tête, le texte devant nous. On peut signaler qu'on l'a aux éditions Folio Théâtre, voilà, qu'il y a aussi quelques notices, quelques archives, un entretien, un extrait d'entretien avec Marguerite Duras. Bref, que c'est riche. À quel moment du parcours et de la bibliographie de Marguerite Duras on est quand paraissent d'abord le roman, puis la pièce de théâtre, L'Amante anglaise?
Bien, nous sommes pour le roman, en 1967. Il y a déjà eu une pièce sur ce fait divers qui, elle, a été écrite en 1959. Mais bon, là, je pense qu'on va plutôt s'intéresser à ce qui est vraiment l'Amante anglaise et non pas les viaducs de la Seine-et-Oise. Et en 67, Duras a déjà derrière elle tout de même une œuvre importante. Elle est celle qui a fait le scénario d'Hiroshima, mon amour. Elle est celle qui a écrit le barrage. Ça a été le premier grand texte pour lequel elle a failli avoir le Goncourt. Et elle est celle qui a écrit Moderato cantabile. Et enfin, si je puis dire, par rapport à 1967, elle est celle qui a écrit Le ravissement de l'Olvestein, qui est vraiment un point fort, lumineux dans l'œuvre. Et je crois d'ailleurs, je ne veux pas anticiper, mais qu'il y a entre les deux héroïnes,
quelques échos,
même
ouais.
Si leur âge, beaucoup d'éléments n'ont pas l'air de concorder, mais il y a évidemment des éléments qui se rejoignent. Et puis, je dirais, elle est juste avant 1968, mais elle est déjà un petit peu dans cette mouvance, et on verra que la pièce a été mise en scène en 68, et je pense là aussi que ces éléments ne sont pas indifférents sur le contenu même de la pièce, et sur à la fois sur la langue et sur les contours du personnage, enfin essentiellement du personnage de Claire Lanne.
Alors justement, peut-être on peut dire un mot aussi sur où elle en est de sa langue. On sait qu'il y a plusieurs langues dans l'œuvre de Duras, et pas seulement quand on fait la séparation entre ses romans, son théâtre ou ses articles de presse. Vous avez cité L'Olvestein et Moderato Cantabile, ces deux endroits de l'écriture de Marguerite Duras. Là, on est où avec L'Amante anglaise? On est de quel côté du spectre?
Je pense qu'on est vraiment du côté qui a basculé avec Moderato et avec L'Olvestein, c'est-à-dire une langue, on va dire, de l'ellipse, de la rareté et de la poésie aussi. Donc là, je crois qu'on a un peu largué les amarres avec le purement narratif.
On est un peu loin du barrage contre le Pacifique,
oui,
par exemple.
Oui, on est un peu loin du barrage contre le Pacifique en termes de construction narrative. Et d'ailleurs, c'est bien l'émergence de la parole, hein, puisque déjà, Moderato, c'est très dialogué. Et bien sûr, avec le roman La Mante anglaise, on est aussi dans le dialogue qui débouchera assez naturellement sur la pièce de théâtre. Mais c'est vrai qu'en termes de rapport à la langue, ce côté d'une poésie énigmatique, je crois qu'on vraiment là, Duras
on est
a basculé.
Oui. Quelle place tient La Mante anglaise dans la bibliographie? Vous avez cité des textes qui sont plutôt très connus, Moderato Cantabile, Le barrage contre le Pacifique, Le ravissement de l'Holbeinstein. Qu'en est-il de La Mante anglaise?
Je dirais que La Mante anglaise participe de ce qui a été un petit peu l'oubli du théâtre de Duras. D'ailleurs, Duras elle-même le dit en 1987 dans des entretiens. Elle dit que il y a peu de femmes qui sont mises en scène au théâtre. Ce qui
vous dites quoi, 87
vrai. En 87, dans La Vie matérielle, elle dit ça. Elle dit là, je vais être au théâtre. C'est vrai que dans les années 80, elle-même est au théâtre. Elle met en scène sa pièce Savannah Bay avec justement Madeleine Renaud qui jouera aussi La Mante anglaise. Elle met en scène La Musique à deuxième. Bon, donc mais c'est vrai que peu de gens, finalement, lecteurs de Duras, connaissent vraiment son théâtre, encore que maintenant, grâce justement aux mises en scène et aux comédiens et aux comédiennes, c'est un pan de son œuvre qui est de plus en plus connu. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable de voir comme elle occupe, si je puis dire, le terrain en France et à l'étranger aussi. Vraiment,
mais un
son
peu inédit,
théâtre.
Par exemple, cet automne-là, en effet, il y avait plusieurs moments Duras et c'est pas forcément tout le temps comme ça.
Non,
à ce propos précisément, Dominique Raymond, pour parler de la rareté ou peut-être du caractère légèrement oublié du théâtre de Marguerite Duras, votre vie est vouée au texte de théâtre depuis maintenant très longtemps. À quel moment vous rencontrez la plume et les textes de Marguerite Duras, si vous les rencontrez?
J'ai été invitée par mon amie Sylvie Balul, qui travaille pour des festivals de lecture, à lire... Et par le marathon des mots, à lire d'abord Le barrage contre le Pacifique, dont j'ai fait un montage d'1h10. Et puis ensuite, avec Sylvie Balul, des carnets de la guerre. Et puis La vie matérielle. Bon, ça c'est les trois textes, disons, que je pouvais dire que je connaissais à peu près de Marguerite Duras.
Et qui intervenait quand dans votre parcours?
Je me souviens plus, j'ai plus tellement la notion du temps. 10, 15, 20 ans, je me rends pas compte. Il faudrait que j'arrive pas à situer. Mais je sais que dans les années 80, elle était donc très présente sur la scène intellectuelle et poétique et même théâtrale. Mais je ne comprenais pas cette écriture, je ne comprenais pas ce qu'elle nous livrait, je ne comprenais pas sa poésie.
Elle était montée dans les théâtres
elle
que vous fréquentiez?
Elle était un peu montée, elle était surtout beaucoup lue, Lovstein, etc. Elle était surtout beaucoup lue et c'était toujours des gens qui me parlaient d'elle, qui étaient des gens très très intellectuels, très poétiques, des femmes tourmentées, poétiques et éthérées un petit peu. Et moi, je me disais, je n'ai pas ma place dans cet univers de Duras du tout, du tout, du tout, parce que je n'avais pas lu le reste. Donc cette partie mentale et poétique et un peu éthérée de Duras, elle ne m'est pas parvenue du tout. Même dans les films, j'aimais beaucoup la musique d'India Song, mais j'avoue que j'avais du mal à pénétrer cet univers tellement opaque et mystérieux que je ne comprenais pas, à dire vrai. Et quand j'ai lu donc La vie matérielle ou Le barrage, bien sûr, ou Les carnets de la guerre, là j'ai vu l'autre Marguerite, celle qui me plaît beaucoup, celle qui est les pieds dans la terre, dans une concrétitude, je sais pas si ça se dit, allez on y va, total. Et ça m'a beaucoup plu et beaucoup parlé.
Si bien que quand on vous propose ce rôle-là et la lecture dans un premier temps de La Mante anglaise, c'est quoi pour vous comme moment de lecture, Dominique Raymond? Vous lisez le roman ou la pièce tout de suite?
Oh non, j'ai pas lu le roman. Je lis uniquement la pièce et la pièce qu'on va jouer. Non, d'abord, je me suis trompée de version. J'ai pris la première. J'ai commencé à travailler la première version. Mais en fait, les
pas
mots.
Pas trop longtemps, j'espère.
Hein?
Pas trop longtemps.
Non, pas trop longtemps. Les mots sont si difficiles maintenant à rentrer dans la tête définitivement. Bon, et après, ils s'en vont, mais c'est si difficile maintenant de les faire rentrer qu'en fait, peut-être quelques autres font comme moi. En tout cas, je ne lis que la pièce et que la pièce et que la pièce et que la pièce. Et rien, même pas rien autour, puisque ces mots, il faut les faire rentrer dans la tête. Et dès qu'un autre mot rentre en jeu, il est en trop. Donc, j'ai vraiment rien lu d'autre, ni Outside, toutes ces choses qui se rapportaient vraiment à ce qu'on était en train de faire. Donc, enfin, plus tard, quand le texte était en moi, j'ai pu commencer à m'intéresser à autre chose.
Et alors, la rencontre avec ce texte
alors,
théâtral.
Alors, la rencontre avec ce texte, bon, bah, déjà, c'est une joie enfantine, presque, de comprendre ce qu'on lit. Enfin, on croit. Oui, c'est une joie très simple, en se disant, ah, ben, là, je comprends. C'est tout simple, en fait. C'est tellement simple, c'est trop simple pour que ce soit, justement. Donc, en effet, on s'aperçoit après que... Voilà, c'est pas si simple que ça, mais oui, c'est la joie d'avoir accès à quelque chose tout de suite sans devoir faire des tonnes de recherches, parce que quelque part, elle s'adresse à quelque chose qu'on a en soi, à savoir cette chose cachée, un petit peu primaire, un petit peu parallèle à l'intelligence intellectuelle normale.
Absolument. Ça,
elle s'adresse vraiment à cette partie un peu, peut-être sauvage de la personne. Moi, je me sens toujours un petit peu sauvage et primitive, à contrario de l'intellect et de la réflexion.
En tout cas, c'est très archétypal et puis on y viendra aussi très enfantin. Il y a quelque chose de premier, en effet, qu'elle
va chercher. De premier, ouais. Voilà. C'est ce premier-là qui m'intéresse beaucoup, et dans le théâtre et dans la vie, d'ailleurs, en général. Je deviens de plus en plus première. Primitive, presque. C'est presque un peu gênant, parfois. Mais voilà, cette proximité avec quelque chose qu'on ne peut pas définir, qui est de l'ordre un peu de la sauvagerie intérieure. Voilà. Et donc, ça correspond bien à ce que cette pauvre Claire-Lanne a fait.
Et on en reparlera dans un instant. Joël Pagès-Pindon, vous lisez quand L'Amante anglaise, et vous avez quoi comme rapport à ce texte-là, s'il a pour vous une place singulière?
Oui, je le lis dans la foulée, je dirais, de L'Olvestein. Et donc, pour moi, c'est vraiment une suite.
Vous êtes déjà en train de consacrer vos nombreux travaux universitaires à Duras?
Non, pas encore. J'ai lu Duras longtemps sans l'analyser et la travailler. C'était une sorte de jardin secret de lectrice. Et je ne voulais pas... j'avais des cagneux en cours et je ne souhaitais pas travailler sur Duras en
cours. Pour vous la garder à vous-même?
Je la gardais pour moi.
J'adore.
Et c'est seulement... Bon, il y a maintenant un peu plus de 20 ans que j'ai commencé à travailler sur Duras. Et là, je ne l'ai plus quitté. Ça a été une passion dévorante. Mais jusque-là, je la lisais, je lisais les œuvres des années 80, 90 dès qu'elles paraissaient, et ça vraiment, c'était une passion égoïste pour moi, cette lecture de Duras.
Égoïsme, mais que vous devez quand même savoir un peu partager.
Voilà, et ensuite j'ai appris à la partager, et maintenant c'est une passion de la faire partager, parce que Duras n'est quand même pas, ne fait pas forcément l'unanimité, vraiment.
Et justement, ce qu'évoquait Dominique Raymond, de ne pas s'être senti parfaitement accueilli ou adéquate pour le royaume littéraire Duras, ça n'a pas du tout été votre cas. Vous avez été tout de suite chez vous.
Oui, je me suis tout de suite sentie en écho avec cet univers-là. Mais je pense justement, comme le disait Dominique, qu'on pense qu'elle est intellectuelle, et en réalité, c'est quelqu'un de très lié aux sensations, de très concret. D'ailleurs, le personnage de l'amante anglaise...
Oui, on va y venir, elle est aussi très prosaïque.
Voilà, elle est très prosaïque.
Après,
et très
pense.
Exactement, mais c'est une sensation intelligente, si je puis dire. Mmh. Ou une intelligence de la sensation. Enfin, je ne sais pas dans quel sens on peut le dire.
Oui, c'est peut-être pas intellectuel au sens jargonneux.
Mais voilà. D'ailleurs, Duras disait qu'elle détestait tout ce qui était théorique. Elle se méfiait. Pour elle, théorique égale terrorisme, une certaine forme de terrorisme. Donc, et c'est vrai, quand on la connaît de l'intérieur, elle disait que souvent qu'elle était très connue, mais pas de l'intérieur. Quand on la connaît de l'intérieur, on voit qu'il y a chez elle ces deux dimensions d'une profonde intelligence, mais d'une sensibilité intelligente.
C'est intéressant, parce qu'il y a précisément un axe ou un moment particulier du texte où il est question de savoir comment connaître quelqu'un de l'intérieur dans L'Amante anglaise. On va continuer de parler de ce texte avec vous, 2. Juste après cette chanson de Sylvie Vartan, ici elle est interprétée par Catherine Deneuve dans le film 8 femmes de François Ozon. C'est un film qui hésite entre plusieurs suspects pour le meurtre du maître d'une grande maison bourgeoise.
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant, moi, je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi, jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités bien cachées. Tu es un homme et moi je t'aime, et ça ne peut pas s'expliquer, car un homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Sur le crime, je ne sais presque rien. On a dû vous prévenir. Voilà ce que dit Claire Lanne, femme meurtrière, personnage central de la pièce et du roman L'amante anglaise de Marguerite Duras, à l'homme qui l'interroge. Cet acte abominable, dont elle ne sait presque rien, il va pourtant en être question en long et en large, ou plutôt ce qui lui a précédé. Une vie de couple, une vie domestique, une vie amoureuse, une vie à trois avec la cousine sourde et muette. Et puis sa vie à elle, ses pensées, son imaginaire, sa folie. Et c'est important d'évoquer d'emblée l'imaginaire de Claire Lanne, son mari la présentant précisément comme incapable d'imaginer. Entre toutes choses, ce sont celles de l'imagination qu'elle comprenait le moins. C'était une enfant par certains côtés. Peut-être lui et d'autres n'avaient-ils jamais écouté celle qui supplie pourtant qu'on le fasse. « Écoutez-moi, je vous en supplie » sont les derniers mots de la pièce. C'est une pièce qui a une structure comme un diptyque. L'interrogateur fait d'abord parler le mari. Ensuite, c'est au tour de la femme. On peut le voir au Théâtre de l'Odéon à Paris jusqu'au 13 avril, puis dans une tournée qui continuerait. Le texte est présenté dans une mise en scène d'Émilie Chariot. Dominique Raymond, vous jouez Claire Lanne et Joël Pagès, pardon, vous êtes spécialiste de l'œuvre de Duras. Merci encore à toutes les deux d'être là pour évoquer le texte. On va commencer avec un extrait de la mise en scène d'Émilie Chariot.
Vous voulez ajouter quelque chose sur le crime ?
C'est très difficile de vous exprimer ce que je crois. Je crois que si Claire n'avait pas tué Marie-Thérèse, elle aurait fini par tuer quelqu'un d'autre.
Vous ?
Oui. Puisqu'elle allait vers le crime, peu importe qui était au bout, Marie-Thérèse ou moi.
Mais entre Marie-Thérèse et vous, quelle est la différence ?
Moi, je l'aurais entendu venir.
Qui aurait-elle dû tuer dans la logique de sa folie ?
Moi.
Vous venez de dire Marie-Thérèse ou moi ?
Je viens de découvrir le contraire. Là. Maintenant.
Pourquoi vous ?
Je le sais.
Un extrait sonore, une captation de la pièce de théâtre Nicolas Bouchaud et Laurent Poitrenaud. On est dans ce premier moment de la pièce où l'interrogateur interroge le mari, Monsieur Lannes. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ce morceau de dialogue, de la place qu'occupe le crime, mais pas que le meurtre perpétré par Claire Lannes, mais aussi l'idée du crime vers lequel elle va tout droit et qui est une idée importante, celle du meurtre, de la violence dans l'œuvre de Duras. Let's go.
Alors, le crime, bon, c'est vrai que Duras a toujours été fasciné par les faits divers criminels. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui la fascine, c'est, elle le dit, la vérité des ténèbres. Donc, c'est quelqu'un qui ne fait pas de classification. D'ailleurs, il y a différents meurtriers. Il y a des meurtriers masculins, il y a des meurtrières dans son œuvre. Et ce qui l'intéresse, effectivement, c'est ce saut dans la concrétisation d'un crime. Mais là, justement, dans le dialogue qu'on entend entre Pierre Lannes et l'interrogateur, Pierre Lannes montre que le crime aurait pu porter sur elle, parce qu'en fait, le crime, c'est...
Sur lui-même.
Voilà, sur lui, elle aurait pu le tuer, lui, et c'est sans doute, il pense, ce qui était le plus adéquat, peut-être, parce que chez Duras, il y a vraiment l'idée que le crime est l'aboutissement de tout un étouffement de la personne, et un étouffement qui peut être très physique. Là, justement, le poids de la maison, c'est important, ce poids de la maison. Et là, ça rejoint une vision féministe de Duras, qui a toujours été très sensible, même si elle n'a pas adhéré à un mouvement féministe comme le MLF, toujours par son refus des embrigadements qu'elle avait en horreur. Mais en fait, son féminisme venait de là, elle était très consciente du sort fait aux femmes, et en particulier ce qu'elle appelle, dans un très bel entretien avec Michel Porte, les lieux de Marguerite Duras. Elle dit, la femme, c'est un prolétariat millénaire, et comme le prolétariat, eh bien, il fait corps avec ses instruments de travail, la femme, elle fait corps avec son instrument de travail qui est la maison. Mais la maison, en même temps, c'est propice,
c'est un motif
à l'étouffement.
Oui, et puis voilà. C'est un motif très important aussi, le lieu de vie, la maison, le travail domestique. Vous parliez tout à l'heure, Dominique Raymond, de l'aspect très prosaïque que vous avez aimé dans ce texte-là et dans le personnage de Claire Lannes. On entend à l'instant Joël Pagès parler d'une vérité des ténèbres. Est-ce que vous devez en savoir quelque chose de cette vérité des ténèbres pour pouvoir jouer Claire Lannes ?
Alors, moins on en sait, mieux c'est, en général. Enfin, il me semble. C'est pas par paresse intellectuelle ou parce que je veux rien savoir, rien lire. Mais en fait, j'ai remarqué que le savoir, même pour d'autres textes, c'est valable aussi. Un trop grand savoir intimide. Enfin, moi, ça me provoque une intimidation. Donc, parfois, je me complais un petit peu dans mon non-savoir, dans mon ignorance naturelle. Je sais deux, trois trucs, mais disons, c'est une façon autodidacte. Et j'ai l'impression que pour jouer, ça donne du coup cette espèce de permissivité à beaucoup de choses. Parce que parfois, on a des espèces de vérités en soi qui sont finalement qui valent quelque chose aussi. Ce n'est pas toujours un seul sens qui doit nous être imposé. Et parfois, la vérité ou le sens d'un acteur qui ne lit peut-être pas tout ce qu'il devrait lire, peut-être que c'est à la même hauteur. J'ai même cette prétention de croire que parfois, sa vérité est tout aussi importante que celui ou celle qui a beaucoup lu. Et pour revenir au crime, j'avais noté cette phrase de Marguerite, qui dit quand même des choses extraordinaires, qui avait dit « Dans le sublime fatras des religions anciennes, le crime visite le criminel, opère à sa place, et s'en va de lui, le laissant parfois sans mémoire aucune de l'avoir commis. »
Presque une force indépendante de
celui... C'est ça, c'est ça la vraie chose, c'est qu'en fait ce crime, elle l'a évidemment pas prémédité, et même en le faisant, c'est même pas sûr que ça soit elle qui le faisait, parce qu'elle était guidée par des forces occultes, comme ce fait divers qui a eu lieu en mer du Nord, là, cette femme qui avait abandonné son enfant sur la plage, elle était guidée par des forces...
Qui a donné lieu au film de
Diop. Saint-Omer, elle était guidée par des forces invisibles qui lui commandent de faire telle ou telle chose.
Mais quand je parlais d'en savoir quelque chose aussi sur la vérité des ténèbres, c'était peut-être un savoir intérieur, c'est-à-dire vous, quand vous dites évidemment pas prémédité, est-ce que vous avez un avis, au sens la comédienne que vous êtes, devez-vous en savoir quelque chose de ce que Claire Lane a fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pour motiver votre jeu, ou au contraire, moins c'est motivé, moins on en sait, mieux c'est.
Oui, alors peut-être qu'au bout d'un moment, on n'a plus du tout envie de, de savoir quoi que ce soit. Non, l'idée, c'est de ne pas décider les choses et de voir ce qui se passe au fond avec ce texte incroyable, qui est tellement simple que les gens n'ont pas besoin de réfléchir, et c'est pour ça qu'ils rigolent, c'est pour ça qu'ils sont touchés, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir. Alors que si c'était une enquête judiciaire, il devrait faire un travail de fou pour essayer de comprendre qui, quoi, comment, pourquoi. Et là, tout est dit. Mm. Tout est dans la question. Il n'y a pas d'enquête judiciaire. Les gens n'ont pas à se mettre au travail. Et c'est pour ça qu'ils sont tout à fait détendus et qu'ils écoutent les choses les unes derrière les autres. Ils peuvent donc même rire parfois, parce qu'il faut quand même dire que c'est quand même parfois assez drôle.
Oui.
Enfin,
on va y
des
venir,
sorties,
bien sûr.
Voilà, qui sont très, très drôles. Mais pour en revenir avec la raison, non, j'en ai aucune. Et moi, déjà, d'apprendre le texte, c'est déjà tellement énorme, ça me prend déjà tout mon temps. Puis après, ben, on voit ce qui se passe. Il se passe peut-être pas grand-chose au début. Hein. On dit les mots les uns derrière les autres. Mais même ça, ça marcherait même déjà comme ça, je dirais, avec elle. C'est en ça que c'est une immense écrivaine et qu'on a l'impression de jouer un classique du style Phèdre de Racine. Quoi. On
pas peut-être c'est intéressant de s'arrêter sur cette idée-là du classique. Parce qu'au final, quand on dit parler de ce qui est premier, moi j'ai dit parler de ce qui est archétypal, Dominique Raymond dit on a l'impression de jouer un classique. C'est vrai qu'il y a quelque chose de la grande figure de la femme assassine. Il se trouve que là, c'est la cousine sourde et muette, mais ça pourrait être Médée, ça pourrait... Il y a quelque chose qui travaille comme ça, ou qui informe le texte, qui va bien au-delà de sa fascination pour le fait divers.
Oui, oui, parce que Duras, de toute façon, était fasciné, si je puis dire, par Racine, par la tragédie racinienne. Et justement, bon, je ne sais pas si on va en parler, mais le fameux procès avec Christine Villemain, et elle en fait une héroïne tragique, et donc c'est ça qui la fascine, c'est cette dimension au-delà du fait divers, au-delà de motivations qui sont purement circonstancielles. Mais de toute façon, Duras, quand on regarde bien quelles sont ses thématiques, elles sont finalement assez peu nombreuses.
Héros et Thanatos.
Ouais, voilà. Voilà, donc quand on... Mais c'est ça qui est magnifique, c'est qu'avec des modulations infinies et qu'elle incarne dans des personnages qui sont frères et sœurs, si je puis dire, mais qui sont pourtant tous différents.
Dominique Raymond, vous avez dit tout est dans la question. On va écouter un autre extrait de la pièce. Cette fois, on est dans le deuxième moment. L'interrogateur interroge Claire Lane. C'est donc vous qu'on entend et Nicolas Bouchaud. Et il y a presque un discours méta qui se produit là sur ce que c'est que cette forme de l'interrogatoire, ce que c'est que poser des questions, ce que c'est qu'attendre certaines questions.
Vous ne savez pas pourquoi vous l'avez tué ?
Je ne dirais pas ça, voyez.
Qu'est-ce que vous diriez ?
Ça dépend de la question.
On ne vous a jamais posé la bonne question sur ce crime ?
Non. Si on me l'avait posé, j'aurais répondu.
Et vous ne cherchez pas vous-même la bonne question ?
Si, je ne l'ai pas trouvée. Je ne cherche pas beaucoup. On fait défiler des questions, j'en ai reconnu aucune au passage.
Aucune ?
Aucune. Demande, est-ce que c'est parce qu'elle est sourde et muette, qu'elle vous tape sur les nerfs, ou bien est-ce que vous êtes jalouse de votre mari, ou bien est-ce que vous vous ennuyez ? Vous, au moins, vous n'avez rien demandé de pareil.
Mais qu'est-ce qu'elles ont de faux, ces questions-là ?
Elles sont séparées.
Ah, la bonne question devrait comprendre toutes ces questions, plus d'autres encore.
Peut-être. Mais vous, ça vous intéresse de savoir pourquoi j'ai fait ça ?
Oui. Vous m'intéressez. Alors tout ce que vous faites m'intéresse.
Si je n'avais pas commis ce crime, je serais là encore dans mon jardin, père. Parfois, ma bouche était comme le ciment du banc.
Quel serait, d'après vous, un exemple de bonne question, par exemple, parmi celles que vous pourriez me poser ?
Vous posez pour quoi faire ?
Par exemple, pour savoir pourquoi je vous interroge ? Comment vous m'intéressez ? Comment je suis ?
Je le sais, comment je vous intéresse. Comment vous êtes, je le sais déjà un peu. Avec Alfonso, quand il passait parler à Pierre du travail ou n'importe quoi, j'allais derrière la porte et j'écoutais. Pour vous, ça devrait être pareil.
Je devrais parler loin de vous.
Oui, à quelqu'un d'autre.
Oui, sans savoir que vous écoutez.
Sans le savoir, avec ça arrive par hasard.
On entend mieux derrière les portes.
Tout, C'est une merveille de la vie. De cette façon, j'ai vu Alfonso jusqu'au fond, où lui ne voit pas.
Et Pierre, quelle voix il avait derrière la porte?
Lui, la même que devant. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Si vous trouvez la bonne question, je vous jure de vous répondre.
C'est prodigieux, en effet. On se dit, en écoutant cette captation sonore de L'Amante anglaise, avec votre voix, Dominique Raymond, et celle de Nicolas Bouchaud, tout à l'heure, vous avez dit, Joëlle Pagès-Pindon, qu'elle se méfiait, Marguerite Duras, de la théorie. Mais quand on écoute ça, on pourrait presque entendre Marguerite Duras qui fait un cours sur le langage, sur le dispositif dialogué, sur presque, je ne sais pas, même des influences de Foucault et le rapport à l'aveu. Enfin, il y a presque ça qui pourrait ressortir de ce ping-pong qui, par ailleurs, et on va y venir, est drôle.
Oui, mais justement, c'est en acte.
Oui,
voilà,
c'est en acte.
C'est un savoir en acte. Bon, là, la fameuse phrase de Lacan à propos de Duras et de L'Olvestein, elle s'avère savoir sans moi ce que j'enseigne. Donc, elle a effectivement cette justesse, cette préscience des rapports humains, du tragique, de tout, des rapports de classe, des rapports individuels. Et justement, elle n'est limitée
là,
par
aucune théorie. Là, vous dites qui, Claire Lanne ou Marguerite Duras, les
Comment?
Deux, Claire Lanne ou Marguerite Duras?
Ben, Claire Lanne, ouais. Et Marguerite Duras. Mmh. Elle est EST Marguerite Duras, d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est évident que elle est quelque part écrivain. Claire Lanne, hein. D'ailleurs, elle le dit, je ne pouvais pas crier, alors j'ai écrit. Et qui écrit, c'est Duras. Hein. Mmh. Donc, c'est vrai, d'ailleurs, à un moment, l'interrogateur, elle dit finalement, l'interrogateur, ça peut être l'écrivain. Et puis après, elle dit non. Au fil du temps, au fil des reprises, ça n'est pas un écrivain, l'écrivain c'est Claire Lanne. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une proximité de personnalité entre cette Claire Lanne, cette on peut dire cette petite folle, c'est le mot petite folle, c'est Duras qui l'applique à L'Olvestein, mais là aussi, elles sont sœurs. D'ailleurs, Duras le dit, Claire Lanne, elle est sœur de L'Olvestein et elle est sœur de Duras. Hein, et Duras raconte que quand elle a écrit L'Olvestein, et elle aurait pu le dire quand elle écrit L'Amante anglaise, quand L'Olvestein crie au moment du bal, où on lui vole son fiancé, si je puis dire, eh bien Duras elle-même a crié. Donc il y a vraiment une identification de Duras, et c'est ça qui est beau. Elle se projette totalement, pas à un niveau, je dirais, platement biographique, mais au niveau de tout un imaginaire et toute une sensibilité. Et c'est vrai que ce que vous disiez, il y a tout. Là, il y a une réflexion sur le dialogue, sur
elles
la maillotique.
Elles sont séparées. Quand je me dis que ce n'est pas la bonne question. Pourquoi? Ouais. Parce qu'elles sont séparées. Il faudrait que tout vienne ensemble. Peut-être on peut dire un mot de ce dispositif de Dominique Raymond. Donc, deux moments d'interrogatoire, ce fameux interrogateur dont on ne sait rien. D'abord, il interroge le mari, puis il interroge Claire Lanne. Qu'est-ce que c'est ça à jouer? Ce côté question-réponse qui est en effet très présent dans les procès, qui est autre chose que juste la pièce dialoguée, il y a vraiment une autre tension.
Comment? Bon, déjà, ça détend de devoir répondre plutôt que de poser des questions. C'est plus facile de répondre à des questions que de les chercher. Et pour le rôle de Nicolas, l'interrogateur a dû être vraiment très très difficile à apprendre parce qu'il faut aller chercher les questions. Elles ont parfois aucun rapport les unes avec les autres.
Et ça va vite. Et c'est long.
Et c'est long. Et ça va vite. Alors que nous, on répond. Et si on répond à côté, enfin moi, en tout cas, si elle répond à côté, c'est pas grave. On dira elle est folle. Donc c'est pas très grave. Mais en fait, Marguerite Duras, elle est dans Claire Lanne, sans doute, mais elle est beaucoup dans l'interrogateur, évidemment aussi, puisqu'après, il y a ce petit passage où on l'entend interviewer des enfants, où elle est carrément à leur niveau, enfin pas du tout au-dessus, et c'est très beau comment elle leur pose des questions sur la mort, le vieillissement, etc. Elle est partout, elle est peut-être pas dans Pierre Lanne, peut-être, je crois pas, et ce personnage est tout à fait...
Ah, c'est peut-être intéressant de dire ça dans le second moment de la pièce, le personnage du mari, Pierre Lanne, rôde comme ça, dans la mise en scène d'Émile Chariot. Donc certes, les deux chaises sont occupées par l'interrogateur et la femme meurtrière, mais il y a la silhouette de cet homme qui rôde et qui pèse un peu sur les mots, pas complètement sur les mots de Claire Lanne, parce qu'on entendait le public qui rit, Dominique Raymond, et en effet, ça n'arrive pas qu'une seule fois dans la pièce. Qu'est-ce qui fait qu'on rit? Tout à l'heure, vous avez dit parce qu'on n'a pas à réfléchir, mais quoi d'autre?
C'est la naïveté. C'est la naïveté qui fait rire les enfants quand ils parlent et disent des choses tellement vraies, tellement graves, tellement naïves. Les adultes rient toujours. Dès qu'un enfant répond à une question.
Aussi, hein.
Oui, par défense. Mais ils ont évidemment raison. C'est la gravité, la naïveté, l'enfance qui fait rire. Parce que les gens, souvent, sont passés, dans un autre stade.
Contenu dans Claire Lane, vous voulez dire? C'est l'enfance qui est.
Contenu, même pas contenu, carrément lâché, on va dire. Ouais. C'est-à-dire, c'est la seule chose juste que le mari dit sur elle, c'est qu'elle avait des moments d'enfance. Ouais. La folie, la fait rester jeune. Bon, c'est pas parce qu'on veut rester jeune, mais elle est vraiment presque infantile parfois. Mm. Je trouve intéressant toujours d'aller chercher là-dedans, dans l'enfance, effectivement, les choses, mais sans jouer l'enfant, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire jouer les enfants quand on est déjà hyper mature, c'est ridicule. Mais par contre, je trouve ça tellement riche, quoi. C'est-à-dire qu'on avait tout à cette époque. On avait absolument tout jusqu'à 14 ans. On a tout. Et on perd après les choses. Et on les retrouve beaucoup plus tard. Tant mieux. Il faudrait dire ça toujours.
C'est bien de l'entendre.
Mais moi, je le pense sincèrement, mais c'est vraiment, j'y pense beaucoup en ce moment, parce que je me dis pourquoi je me sens en ce moment si libre, si enfin j'ose dire les choses, comme Claire Lane. Moi, j'ai pas parlé pendant des années, puis tout à coup, on peut plus m'arrêter. Et du coup, c'est comme si je retrouvais un petit peu le tempérament, la chose entière et complète que j'avais avant d'avoir 14 ans. Qu'ensuite, ça s'est un peu morcelé, ça s'est un peu désagrégé, ça s'est un peu rétréci à cause de quoi? À cause de la vie adulte, cette obligation d'être ceci, obligation d'être cela, regarder comme ceci, regarder comme cela. On perd de sa liberté beaucoup, mais on s'en rend pas compte. Et bon, moi, pardon, je déborde un peu sur l'émission.
Non, mais pas du tout. Et il y a beaucoup de liberté, bizarrement, dans cette parole folle de Claire Lane, vous diriez. Et
parce qu'elle est redevenue à l'âge enfant. Elle a 13 ans, en fait, 12-13 ans par là. C'est comme si toute sa psyché revenait en arrière, quoi. C'est extraordinaire. Et même cet amant de Cahors dont elle parle, les larmes dans les yeux, ce qui est beau, c'est qu'elle l'a rêvé aussi. Mmh. En fait, cet amant de Cahors, il a existé, sûrement. Mais c'est pas du tout pour lui ce que ça a été pour elle. Alors que quand elle nous l'explique, c'est vraiment mordicus. Elle a vécu cette histoire d'une façon très, très partagée.
Absolument.
Mais ils pensaient pas du tout la même chose, les deux, ça c'est sûr. Mais elle s'en fout, parce qu'elle vit les choses toute seule.
Il y a quelque chose qui est assez beau dans la manière, parce qu'on n'a pas parlé de ce texte-là, l'amante anglaise. Elle existe en amante, cette Claire Lane, en effet, dans la façon dont elle évoque l'amant de Cahors et Alfonso. Il y a quelque chose comme ça où elle est amante. Vous parliez tout à l'heure de la sauvagerie Dominique Raymond, mais on la voit errer dans cette petite ville où plus tard elle ira sur la colline balancer des bouts de corps dans des trains de marchandises, mais elle est aussi une femme libre de la nuit à qui on pourrait prêter des aventures sexuelles ou amoureuses. Quelle place ça tient dans la composition de ce personnage de Claire Lane?
Alors c'est vrai que là aussi c'est un trait qui est caractéristique de plusieurs héroïnes de Duras, et pour elle c'est très important cette liberté dans l'amour. C'est à la fois une liberté. Et puis, par exemple, dans Hiroshima, mon amour, cette femme de cette Française Nevers qui va contre les tabous, puisqu'elle tombe amoureuse d'un ennemi, d'un Allemand. Et alors, elle dit, c'est une femme sans moralité. Et de même, Claire Lane, elle dit quelque part que c'est une coureuse. Voilà. Donc ça, c'est un aspect de la liberté, on peut dire aussi sexuelle.
C'est
importante,
bien sûr, ouais.
Pour Duras, mais en même temps, c'est aussi, ce sont des héroïnes qui ont une telle exigence vis-à-vis de l'amour que jamais, vous le disiez, l'agent de Cahors, il ne peut nullement remplir l'attente immense de Claire Lane en termes d'amour. Et là aussi, c'est une constante chez Duras. Il y a cette fameuse phrase « Aucun amour au monde ne peut tenir lieu de l'amour ». Donc, toutes ces héroïnes, c'est ça, elles ont des exigences en termes d'amour qui font qu'elles seront finalement toujours déçues et elles ne s'accommoderont pas de la vie. Et c'est ce que disait Dominique tout à l'heure, l'enfance, c'est ça, c'est ne pas s'accommoder de la vie. Puis quand on devient adulte, on vous apprend à vous accommoder de la vie.
Ne pas s'accommoder de la vie au sens ne pas céder sur son désir. Voilà, c'est pas que ne pas être malheureux.
Absolument. C'est ne pas céder sur son désir, c'est continuer à avoir des exigences, des idéaux.
Et des pensées.
Et des pensées.
Elle parle d'elle sur le banc dans le jardin. C'est intéressant oui. aussi, oui. toute cette part-là, oui. de la manière dont elle est figurée quand Claire Lane prend la parole ou quand son mari parle d'elle, en train de penser. C'est-à-dire que au début, si on prend le prisme voilà, qu'on pourrait appliquer aujourd'hui, 2025, de comment on regarde des textes, comment on regarde des films, etc. Au début, c'est quand même deux hommes qui parlent d'une femme, en son absence, et qui font des supputations sur ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, et surtout ce qu'elle n'est pas. Donc on pourrait se dire vraiment, c'est plus possible de faire ça. Et ensuite, c'est une femme qui quand même... parle de ce qui l'anime dans sa tête, parle de ce à quoi elle pense. Je pense aux plantes, je pense à la météo. Enfin, on a accès à l'intérieur quand même de Claire Lane, Dominique Raymond.
Oui, mais justement, il n'y a pas de place, à mon avis, justement, pour ces fameuses aventures dont on parle. À mon avis, il n'y en a pas. Du tout. Tout est dans sa tête. Tout est platonique, tout est donc merveilleux. Et à partir du moment où c'est réalisé, ce n'a plus de raison d'être, c'est tellement décevant. Donc en fait, elle veut continuer à rêver de cet amour impossible, d'abord avec l'agent de Cahors, ensuite avec Alfonso. Elle dit qu'elle l'a attendu toute une nuit, mais elle savait bien qu'il ne viendrait pas, enfin, etc. Donc tout ça est totalement comme un conte de fées, une grande solitude et... Je crois pas qu'il y a de... Le mari croit, oui, il dit qu'elle aurait bien pu avoir des amants jusqu'à la fin de sa vie, mais il se trompe de A à Z. En fait, tout ce qu'il dit d'elle, c'est absolument à côté d'un plan.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, ouais. C'est que toute la première partie, elle va être, en somme, démolie par l'apparition de Claire Lane.
Oui, c'est deux hommes qui se trompent.
On voit que tout ce que disait Pierre Lane était faux par rapport à ce que l'on perçoit, nous, de Claire dans le deuxième acte.
Et dans ses propres mots. On va écouter la voix d'Auréa, auditrice du Book Club. Elle a lu le livre et elle est surtout venue vous voir sur scène au Théâtre de l'Odéon.
Bonjour le Book Club. Lorsque je me suis rendue récemment au théâtre, ce qui m'a le plus marqué, c'est le sous-texte de cette pièce. Puisque sans vraiment l'expliciter, Marguerite Duras prend position. Alors certes, elle dépeint Claire Lane comme folle, mais elle extrait aussi les racines de cette folie et c'est un aspect qui m'a bouleversée. En fait, on comprend à demi-mot que Duras fustige la bourgeoisie qui emprisonne les femmes dans la répétition d'une routine, une routine régie par les besoins des hommes. Et c'est pourquoi j'aimerais interroger Madame Pingès-Pindon. Pensez-vous que chez Duras, la folie peut s'entendre comme le cri d'une femme rendue inaudible. Merci pour votre réponse.
Un cri d'une femme rendue inaudible et soudain la parole. On entend Auréa. Merci beaucoup Auréa pour cette question.
Je pense oui, c'est un petit peu ce que je disais à l'instant, c'est que effectivement, il y a là dans le personnage de Claire Lane face à son mari, l'entité d'une femme qui a été dont la parole a été étouffée par le système, on peut dire patriarcal entre guillemets.
67-68, c'est intéressant justement l'idée que on date ça, 1968, le surgissement de la voix d'une femme dans Claire Lane. Alors après, c'est pas n'importe quelle femme. C'est quand même une femme qui a découpé en morceaux une autre femme pour jeter les bouts de son corps dans des trains de marchandises sans qu'on puisse trouver la tête, ce qui est assez important. Mais quand même, ça, ce serait donner enfin la parole à...
Oui, ou il y a une expression que Duras utilise sur mai 68, c'est le refus sauvage. Alors, il y a sauvage, et donc cette sauvagerie, elle se manifeste par le crime, qui excède bien entendu toute prise de parole. Mais il n'empêche que ce sont les excès auxquels peut conduire effectivement l'étouffement d'une parole. Donc,
on va écouter une archive de 1983, c'est Marguerite Duras qui parle du texte, du théâtre et de la manière dont elle veut, doit passer le pouvoir aux acteurs.
Alors voilà, le théâtre n'existe pas en dehors des comédiens. C'est un texte qui n'est pas animé.
On ne lit pas ça comme on lit des livres, non ?
Il manque une dimension.
Ah oui.
Il manque une dimension qui est celle de la passation des pouvoirs aux comédiens. Un livre se contient dans un roman. Un texte se contient dans un livre. Une pièce de théâtre ne se contient pas dans un livre. Une pièce de théâtre aboutit à la scène. Et c'est là qu'elle existe. Mais avant vous, elle n'existe pas. Il y a des informations concernant la pièce, mais il n'y a pas d'existence à proprement parler.
C'est Marguerite Duras avec Madeleine Renaud en 1983. Passer le pouvoir aux acteurs et aux actrices, Dominique Raymond, pour que la pièce existe, sinon il n'y a rien. Est-ce que ça vous parle?
En tout cas, quand on répétait, on avait appris, Émilie Chariot nous avait dit, et Nicolas Bouchot, que pendant les répétitions avec Claude Régis, en fait, il jouait la pièce, mais parfois il changeait un peu le texte. Et du coup, ça s'est appelé le brouillon magnifique. En fait, elle s'est adaptée complètement à ce que les acteurs disaient, elle a rectifié des trucs de la pièce. Mais on oublie ça, mais maintenant ça se fait aussi avec les auteurs contemporains, bien sûr, beaucoup, beaucoup. Écriture de plateau, ça se fait beaucoup. Mais c'est toujours frappant d'imaginer justement ces grands classiques. En fait, ils ont aussi été tirés des répétitions, comme Claudel, quand il répétait avec Barreau. Barreau lui disait non, ce troisième acte, ça va pas du tout, ce que vous pouvez changer pour demain. Alors il disait, bon, je vais voir comment je vais être inspirée cette nuit. Et le lendemain, il apportait autre chose. Donc effectivement, c'est le théâtre qui écrit le travail théâtral qui écrit la pièce parfois.
Et ce serait dans ce sens-là qu'elle dirait « il est inanimé ». En gros, le roman n'a besoin de rien d'autre qu'un lecteur ou une lectrice, mais le texte théâtral est inanimé tant qu'il n'est pas passé par vous.
C'est très difficile de lire du théâtre, justement, à ce propos. Quand on ne doit pas le jouer ou le dire à haute voix, ou il faudrait vraiment toujours le lire à haute voix, effectivement, mais les gens qui lisent du théâtre ont beaucoup de mérite, parce que ce n'est pas évident de tout à coup lire comme ça des pièces de théâtre, et dans le but qu'elles ne soient pas forcément jouées, en plus, rien que pour soi, c'est franchement...
Tout à l'heure, vous avez dit combien c'était difficile de faire entrer des nouveaux mots dans votre tête, Dominique Raymond, et que c'était long et que c'était un travail ardu. Comment ça s'est passé pour ces mots de la menthe anglaise? Comment vous avez travaillé? Comment se sont passées les répétitions?
Il y a un travail en amont d'apprentissage, en fait.
Puis c'est le vôtre?
Oui, le mien, oui. C'est un peu, disons, les trois quarts du travail, si je puis dire. Des fois, on dit c'est la distribution, c'est le trois quarts du travail, mais là, c'est l'apprentissage du texte. Une fois qu'on le sait, à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Mais on n'a pas travaillé comme d'habitude. On travaillera une pièce normale où on construit, on s'arrête, on améliore un passage, un autre, on laisse filer, puis on s'arrête. On peut travailler à l'infini sur deux ou trois phrases. Là, jamais. Quand on partait du début, on allait jusqu'à la fin. Toujours, toujours, toujours. Ce qui fait que... Alors, c'était chaque fois investi, bien sûr, mais du coup, les répétitions n'étaient pas très longues. On parlait beaucoup autour. Émilie nous écoutait beaucoup parler de tas de petites préoccupations qu'on avait dans la vie. C'est pour ça que moi aussi, pas habituée, disons, à discuter de comment je vis les choses en général. Voilà, tout à coup, on m'écoutait. Donc, c'était un travail parallèle qui n'avait rien à voir réellement avec le texte, mais finalement, qui a beaucoup aidé pour ça. Et quant à l'apprentissage du texte, donc, c'est très difficile. Mais enfin, si on s'y prend en amont non plus, ça devrait être possible. Enfin, il ne faut pas non plus exagérer. Mais il ne faut pas se bloquer sur la difficulté d'apprentissage, parce que alors là, on n'apprend plus rien du tout. Donc, il faut vraiment être détendu. Donc, disons qu'à peu près, je sais pas, 9 mois à l'avance, j'ai écrit mon texte comme ça, parce qu'on aime bien. Il y a certains acteurs qui aiment bien l'écrire en totalité, avec les répliques de l'autre aussi.
C'est votre cas ?
Oui, mais là, je n'ai pas été jusqu'au bout là, dans ce cahier. Je me suis arrêtée avant. Au bout d'un moment, j'ai trouvé une autre méthode qui était d'enregistrer la voix de l'interrogateur. Et donc, je savais que ça durait 14 minutes la première partie, 18 la deuxième. Et puis là, je me disais, j'ai 14 minutes, je vais faire ma première partie, je vais faire la deuxième. Et ça, c'est quand même aussi assez bien pour ce genre de pièces, bien sûr, pas pour toutes les pièces.
Vous dites que dans ce travail de répétition, on vous écoutait. Et j'ai quand même dit que le dernier mot de la pièce, c'est « écoutez-moi, je vous en supplie ». Qu'est-ce qui, dans la menthe anglaise, a à voir avec ça, c'est-à-dire être écouté, n'avoir jamais été écouté, le fait quand même que la cousine qu'on tue, c'est une sourde et muette. Enfin, il y a aussi quand même ce motif-là de l'écoute et du son qui court, Dominique Raymond.
Oui, on veut être écouté, c'est sûr. On nous écoute rarement, au fond. Et la seule personne avec qui elle aurait pu parler, c'est effectivement cette cousine, mais bon, c'est pas possible. Oui, il y avait une espèce de grande solitude dans le silence, avec un renfermement progressif sur soi, ce qui doit arriver parfois aux gens qui vivent seuls sur une île déserte, je sais pas. Mais le fait d'être écouté, c'est fondamental, effectivement. Il y a des tas d'enfants qui n'ont pas été écoutés, même bien avant le mari. Dans une famille, souvent, c'est quand même... Enfin, à une époque, en tout cas, on n'avait pas tellement droit à la parole à table. Pas tellement. Les analyses n'existaient pas encore trop. Enfin, bon, c'était pas évident d'exprimer les choses, quoi.
sur ce motif de l'écoute. Comment entendez-vous cette dernière phrase, Joëlle Pagès-Sandon?
C'est vrai que chez Duras, on peut dire le dialogue, c'est la maïeutique, c'est-à-dire c'est accoucher les esprits. En ce sens-là, l'interrogateur, il est vraiment emblématique parce que c'est ce qu'il réussit à faire finalement. Parce que cette parole, elle lui demande qu'on l'écoute, mais elle en a besoin pour accoucher de elle-même de cette parole. Et c'est ça qui est beau dans les dialogues de Duras, c'est que c'est jamais un échange sur l'action ou des informations, c'est toujours à un des moments l'interlocuteur est l'accoucheur de l'autre. Et ça, c'est essentiel en effet dans le dialogue durassien.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et chaque semaine à cette heure-ci, on ouvre des livres en fonction de l'actu. Je dis on, mais c'est surtout vous, Fanny Taillandier, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui faites ce travail pendant des semaines pour le Book Club en résidence. Aujourd'hui, une tournée des popotes, Nathalie Quintane et Marine Le Pen.
Et oui, pour parler de notre petit hexagone avec des livres à l'intérieur, je vais tout de suite laisser la parole en effet à Nathalie Quintane pour un texte qui résonne étrangement avec le rassemblement du Rassemblement National hier à Paris et qui s'appelle Stand Up. Donc c'est un texte qui relate ou imagine, ou les deux à la fois, une tournée électorale de Marine Le Pen à Digne-les-Bains. La candidate fait le tour des commerçants de la place Charles de Gaulle. Elle s'arrête à la boucherie où elle parle de viande, à la chocolaterie où elle parle de chocolat, au salon de coiffure où elle parle de cheveux, etc., etc. L'agence de voyage, le café, l'autre café, et la voilà se dirigeant vers le dernier commerce intitulé « La maison de Madison ». La maison de Madison, c'est sac à commission avec des petites filles aux grosses joues et neuroses dessus. C'est tablier en plastique pour femmes avec des trucs cochons destinés aux hommes dessus. Et c'est tablier en plastique pour hommes avec des trucs cochons destinés aux femmes dessus. Ces cartes postales géantes qui font pouette-pouette, ces diplômes pour la 51e année, ces biberons à pastis et ces paillassons jamais silencieux. Bienvenue! Essuyez-vous les pieds, disent-ils. Maison, pied gauche, bonheur, disent-ils. Pied droit, chaussures, home, famille ou encore. À bientôt! À bientôt, à bientôt, le paillasson. Et ses paniers en osier authentique superposés devant la devanture, à côté de l'entrée. Et dites donc, j'espère que vous les faites pas fabriquer par des Roms, ceux-là, dit-elle en manière de clin d'œil, histoire d'entamer la conversation. Ben non, se justifie la commerçante. Ils sont made in Thailand. Ah, décidément, on va de Caribe dans Scylla, dit MLP, qui a des lettres, tout comme le général Osares, fin latiniste. Et elle marche bien, votre petite boutique? Coussi coussa, répond la commerçante. Eh oui, c'est un peu ce qu'Hitler a dû se dire le dernier jour dans son bunker, pense notre Marine. Mais elle n'en dit rien, naturellement. Coussi coussa, c'est un peu l'état de la France, en somme. Et c'était un peu l'état de la Grèce avant le plan de sauvetage, j'y mets des guillemets, sauvetage européen, j'y mets des guillemets. Et c'est un peu l'état de l'Espagne, se lance-t-elle dans un embryon de résumé à la louche qu'elle arrête aussitôt quand elle voit que la commerçante se penche vers ses paniers pour les rentrer dans le magasin. Ah, vous fermez déjà? Dit-elle. Les journées sont longues, dit la commerçante, avant de refermer la porte vitrée, la verrouiller en bas, éteindre les lumières, mettre l'alarme. Marine, remarque alors un gars de l'équipe, vous avez une limace sur l'épaule. Et il la saisit délicatement entre le pouce et l'index, et la dépose sur une feuille d'arbuste en pot qu'un employé municipal a placée devant le nouveau local du parti qu'elle vient inaugurer.
Tout ça, c'est un extrait donc du texte Stand Up de Nathalie Quintane, Fanny Taillandier. Et vous, ça vous plaît parce que c'est une sorte de drôle de moment de politique fiction?
Oui, en fait, c'est un moment drôle qui frise l'absurde, et là c'est un extrait, mais l'ensemble du texte est un morceau de bravoure, et notamment parce que Marine Le Pen, le personnage construit par la narration en tout cas, ne parle jamais de son programme politique. Il n'y a pas de discours politique, mais tout ce qui se dit dans ce discours imaginaire est politique. On l'a entendu dans le texte, en quelques phrases qui semblent ne parler de rien, on entend la xénophobie, le schématisme de la vision de l'Europe et de l'histoire à la louche, et puis on entend les noms de Hitler et du général Osares, latiniste peut-être, mais aussi champion revendiqué de la torture en Algérie comme un certain Jean-Marie Le Pen. Deux figures qui représentent métonymiquement la fondation du Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Le côté terrifiant du RN est rappelé, mais ces sinistres figures, Hitler, Osares, sont convoquées au milieu du fatras de la boutique, des blagues cochonnes et des paillassons qui parlent. Et finalement, Marine Le Pen pourrait bien continuer à parler aux paillassons. Donc sans rien dire sur la politique promue par Marine Le Pen, Quintane sabote de l'intérieur l'idée que le discours de Marine Le Pen aurait un sens. Elle vend sa camelote comme la commerçante, et dans sa camelote, il n'y a rien qui ressemble à un véritable programme. La seule chose qui dépasse le discours, qui soit dans le réel, c'est cette limace totalement incongrue qui est apparue sur l'épaule de la candidate.
Donc pour vous, le texte de Quintane dynamite en quelque sorte le discours politique, sans parler de politique?
Ouais, c'est ça. Et il me semble que c'est encore plus efficace qu'une dénonciation en règle. Ce texte, donc, ouvre un recueil qui s'appelle Les années 10, qui est paru à La Fabrique en 2014. Et le texte qui ferme le recueil, à l'autre bout de la visite de Marine Le Pen à Digne, c'est une réflexion sur le caractère politique de la fiction littéraire. Et Quintane, il dit que toute littérature est politique, mais que d'une certaine façon, c'est ce qui ne s'annonce pas comme politique qui fait la charge politique de la littérature. L'inverse de ce qu'on appellerait littérature engagée ou roman à thèse. C'est une idée qui guide de plus en plus mon travail, qu'il ne s'agit pas dans l'écriture d'avancer des opinions ou de démontrer le réel, qui n'a aucun besoin d'être démontré, mais de le faire jouer dans sa représentation. Dépeindre Marine Le Pen déblatérant n'importe quoi parmi des tabliers cochons avec une limace sur l'épaule, c'est plus efficace que de partir de son discours pour démontrer qu'elle se trompe, parce qu'elle aura toujours quelque chose à dire.
C'est un recueil qui a une dizaine d'années, vous l'avez dit, paru à La Fabrique, mais vous l'ouvrez pour Lecture d'Actu parce qu'il aura ce recueil des choses à nous dire aujourd'hui.
Bah oui, parce que ce qui est frappant dans la situation actuelle de Marine Le Pen et dans la façon dont elle est racontée et amplifiée, c'est que les faits réels, donc le détournement illégal de 4,5 millions d'euros de fonds publics, disparaissent complètement derrière des paroles abstraites et absurdes. Le système a... Par exemple, le système a bâillonné la voix du peuple, je suis Martin Luther King, hashtag sauvons la démocratie, etc., etc. Si Quintane s'y mettait, je pense qu'on verrait bien l'argent manquant, concret comme une pile de paniers en osier authentique, et les propos de paillassons autour. Marine Le Pen, et elle est loin d'ailleurs d'être la seule, sait très bien que pour gagner le pouvoir en politique, il s'agit de parler plus fort que les faits, quitte à raconter n'importe quoi.
Et on rappelle le titre de ce recueil que vous sortez pour ces lectures d'actu, Fanny Taillandier.
Oui, Les années 10 de Nathalie Quintane
aux La Fabrique. La Fabrique, lecture d'actu, merci beaucoup. On vous réécoute et on vous relit sur franceculture.fr. À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue avec vous, avec nos auditeurs. L'idée, c'est qu'on demande à nos auditeurs de chercher de la musique dans les textes. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. Et on vous charge, auditrices et auditeurs, de nous envoyer des extraits de textes où vous relevez comme ça des airs musicaux. Et là, ce sont trois auditeurs, Marianne, Blanche et Fabrice, qui, je pense, sans se concerter, nous ont envoyé un extrait de « Un barrage contre le Pacifique » de Marguerite Duras, paru en 1950, on en parlait tout à l'heure, aux éditions Gallimard. Monsieur Joe finit par s'en aller. Une fois qu'il fut parti, la mère demanda à Suzanne si elle savait le prix du phonographe. Suzanne avait oublié de le demander à Monsieur Joe. La mère, un peu déçue, demanda machinalement à Joseph de cesser de jouer. Mais ce soir-là, autant lui demander de cesser de respirer. La mère, sans trop insister, s'enferma dans sa chambre. Une fois qu'elle fut sortie, Joseph dit « On va jouer Ramona ». Il alla chercher ses vieux disques dont Ramona était le plus précieux. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux, Ramona. Nous étions partis tous les deux, nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux, et jamais deux amants n'avaient connu de soir plus doux.
Ramona. Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they're ringing out our song of love. I bless you, caress you, and bless the day you taught me to care, to always remember the rambling road you went, you went. Ramona, when day's done, you hear my call.
Merci beaucoup Dominique Raymond d'avoir été avec nous pour évoquer L'Amante anglaise. Je rappelle que vous jouez Claire Lane au Théâtre de l'Odéon en ce moment à Paris jusqu'au 13 avril dans la mise en scène d'Émilie Chariot. Merci beaucoup Joël Pagès pardon, d'avoir été avec nous pour évoquer ce texte, L'Amante anglaise. Je peux dire qu'on a vu la pièce à l'Odéon et qu'on a lu le texte aux éditions Folio. Au son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe qui m'aide à penser, préparer ces émissions. Tous les jours, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Louise Hoth, Marianne Chassor, Léa Weissgruss et Alexandra Laibegovic avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club.